Bienvenue à vous sur France Culture, il est midi et demi. Le journal Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Après avoir ignoré la maladie pendant des semaines, les autorités chinoises ont averti ce matin que le nouveau coronavirus pourrait muter et se propager plus facilement, exacerbant ainsi un peu plus encore une inquiétude mondiale déjà renforcée par le signalement, c'était hier, d'un premier cas aux États-Unis.
Dans votre journal également, Donald Trump, décidément toujours aussi imprévisible.
Oui, lui qui en début de semaine semblait pourtant avoir déminé la guerre commerciale avec Bruxelles a de nouveau menacé ce matin de taxer à 25% les automobiles européennes.
Quand le président Emmanuel Macron défend son combat de chaque jour, ce sont ses mots contre l'antisémitisme.
Un message publié en effet aujourd'hui à l'occasion de sa visite en Israël pour les commémorations du 75e anniversaire de la libération du camp nazi d'Auschwitz. Enfin, depuis ce matin, les lycéens de terminale qui veulent entamer des études supérieures, comme les étudiants en réorientation, peuvent inscrire leurs vœux sur Parcoursup, la plateforme d'admission post-bac inaugurée il y a 2 ans et qui intégrera cette année toutes les formations reconnues par l'État. Enfin, 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Une diplomatie féministe est-elle possible? On va d'abord vous expliquer ce qui est d'abord aussi un concept, hein, diplomatie féministe, quel sens donner à ces mots. Rendez-vous avec l'un des visages de cette diplomatie, l'ancienne ministre suédoise des Affaires étrangères, Margot Wallström.
Merci et à tout à l'heure. Parce que la Chine n'est pas particulièrement réputée pour sa transparence, mais aussi parce que le souvenir de l'épidémie de SRAS en 2003, dissimulé pendant plusieurs semaines à la population qui avait fait plusieurs centaines de morts, hante toujours les esprits. L'avertissement lancé ce matin par Pékin que le nouveau coronavirus pourrait muter et se propager plus facilement semble indiquer un nouveau tournant depuis l'apparition de ce virus le mois dernier. À tout le moins, de la part des autorités chinoises, donc, qui jusque-là semblaient avoir plutôt assez largement ignoré l'épidémie. Alors, plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, plusieurs cas de cette mystérieuse pneumonie ont été détectés à l'étranger, après le Japon, la Corée du Sud, la Thaïlande, Taïwan, mais aussi les États-Unis. Ce matin, c'est la région semi-autonome chinoise de Macao qui a fait état d'un premier cas. Ensuite, le bilan s'est alourdi en Chine avec 9 morts contre 6 la veille et désormais 440 patients diagnostiqués contre 300 selon le précédent décompte. Enfin, en Chine, les autorités redoutent à présent que le virus puisse se propager à la faveur des longs congés du nouvel an chinois qui débute cette semaine et donne lieu chaque année à des centaines de millions de voyages dans l'ensemble du pays. C'est ainsi que ce matin, Pékin s'est donc résigné à annoncer de nouvelles mesures pour contenir la maladie. C'est une correspondance signée Dominique André.
Après l'appel de Xi Jinping à enrayer l'épidémie, c'est la mobilisation en Chine. Le vice-ministre a annoncé tout un dispositif de prévention avec ventilation et désinfection dans les aéroports, les gares et les centres commerciaux. Monsieur Li a détaillé les mesures prises à Wuhan, le foyer de l'épidémie dans le centre de la Chine, où vivent 11 millions d'habitants. Li Bin.
On renforce le contrôle pour les personnes qui sortent de Wuhan. On a commencé à relever la température corporelle dans les aéroports, les gares et les arrêts de bus. On renforce le contrôle de l'origine de l'épidémie, on surveille strictement les marchés et on interdit de vendre les volailles vivantes et de faire entrer les animaux sauvages à Wuhan. On désinfecte les supermarchés, les restaurants, on lutte sévèrement contre les commerces d'animaux sauvages. On renforce le contrôle des événements publics et de la population et on réduit les rassemblements.
440 patients sont officiellement diagnostiqués. Le Beijing Jobo, journal populaire à Pékin, donne des précisions sur les personnes malades dans la capitale chinoise. L'une d'entre elles est un homme de 37 ans. Le 10 janvier, il est allé à Wuhan une journée pour son travail. Il est tombé malade le 14 janvier. Parmi les autres patients de la capitale, une étudiante de 18 ans qui avait fait une formation à Wuhan.
Voilà, et j'ajoute qu'une réunion d'urgence aura lieu aujourd'hui au siège de l'Organisation mondiale de la santé pour déterminer s'il convient de déclarer une urgence de santé publique de portée international. Après 10 jours de sélection des jurés au tribunal de Manhattan, c'est aujourd'hui que débutera véritablement le procès de l'homme devenu aux yeux du monde l'incarnation du prédateur sexuel Harvey Weinstein. Avec les plaidoiries d'ouverture, rappelons que l'ex-producteur de cinéma déchu accusé de harcèlement ou d'agression sexuelle par plus de 80 femmes ne sera cependant jugé que pour 2 faits présumés, une agression et un viol. Il risque la perpétuité en cas de condamnation. Lui en revanche semble d'ores et déjà acquitté avant même d'être jugé. Lui, c'est Donald Trump, dont le procès en destitution s'est ouvert hier au Sénat. Les passes d'armes se sont prolongées jusque tard dans la nuit, chacun des deux camps faisant bloc sans aucune fissure. En clair, les 53 sénateurs républicains ont systématiquement rejeté la série d'amendements proposés par leurs 47 homologues démocrates. Alors là aussi, les plaidoiries d'ouverture doivent débuter aujourd'hui. Mais on le sait d'ores et déjà, donc ce procès devrait déboucher a priori sur l'acquittement du président, le Sénat étant majoritairement républicain. Alors en l'occurrence, l'homme qui est à la manœuvre dans le camp conservateur s'appelle donc Mitch McConnell, sénateur du Kentucky, patron de la majorité républicaine au Sénat. C'est lui qui dirige les opérations en vue de faire acquitter le président. C'est une correspondance à Washington signée Gregory Phillips.
Mitch McConnell a deux surnoms. La tortue d'abord pour sa placidité apparente et sa longévité. Il est élu au Sénat depuis 84 et patron de la majorité républicaine depuis 2014. L'autre surnom qu'il s'est lui-même attribué, c'est le fossoyeur parce que, déclarait-il après les élections de mi-mandat, il enterrera toutes les propositions démocrates. Avec moi, rien ne passera. C'est donc lui, l'élu expérimenté du Kentucky, qui pendant ce procès dirige toutes les opérations du camp républicain. En coordination totale, a-t-il reconnu, avec la Maison Blanche. Pendant toute la procédure, on n'entendra quasiment pas sa voix et son accent du Sud, reconnaissable entre tous, car les sénateurs ne prendront pas la parole. Ils ne poseront leurs questions que par écrit, mais Mitch McConnell est déjà très actif en coulisses pour convaincre ses collègues républicains de rester soudés, de refuser la convocation de témoins, comme le veulent les démocrates, et à la fin d'acquitter Donald Trump. Les deux hommes, le milliardaire new-yorkais et le politicien discret, n'ont pas toujours été d'accord, mais dans cette affaire, ils ont un intérêt commun, que ce procès se termine au plus vite, afin de pouvoir se concentrer sur la présidentielle de novembre.
Et pendant ce temps, à quelques 7000 kilomètres du box des accusés, c'est depuis la tribune de Davos que Donald Trump avait choisi de s'adresser au monde hier et plus particulièrement à l'électorat américain. Ignorant totalement son procès, le président a préféré vanter l'économie prospère de son pays tout en mettant en garde contre, je cite, les éternels prophètes de malheur, un message que l'on imagine directement adressé sans la nommer à la militante suédoise Greta Thunberg, laquelle venait d'inviter quelques heures plus tôt les participants au forum à continuer de paniquer face à la crise climatique. Alors, hier, Donald Trump a tout de même trouvé le temps de se montrer parfois conciliant, en particulier avec la France, s'agissant de la fameuse taxation sur les GAFA, les géants de l'Internet, plus exactement. Et pour faciliter la négociation, la France a accepté de suspendre provisoirement la collecte de sa taxe en 2020. L'heure semblait donc plutôt à l'accalmie. Or voilà que ce matin, dans un de ses revirements dont lui seul semble avoir le secret, Donald Trump s'est montré de nouveau menaçant avec les Européens en agitant de possibles taxes sur les automobiles du vieux continent en l'absence d'accord commercial. Marie Viennot, bonjour.
Bonjour.
Comment faut-il interpréter, Marie, tous ces allers-retours?
Eh bien, les nouvelles menaces américaines qui viennent du secrétaire au Trésor américain concernent cette fois l'Europe en entier et pas seulement la France. Donc on s'y perd effectivement un peu, car il y a eu dimanche cet appel entre Emmanuel Macron et Donald Trump qui a débouché sur une sorte de trêve. La réunion aujourd'hui entre les ministres des Finances français et américains devait permettre de sceller cet accord et de se projeter aussi dans les négociations mondiales sous l'égide de l'OCDE. Alors pourquoi menacer une nouvelle fois le secteur automobile européen alors que Donald Trump l'a déjà fait à de multiples reprises, mais pour d'autres raisons? Il disait alors que les voitures importées menaçaient la sécurité nationale. Cette fois donc, ce serait à cause d'une taxe sur le numérique européenne, alors que cette taxe n'est même pas à l'ordre du jour, puisque les Européens, comme les Américains d'ailleurs, disent privilégier d'abord une approche mondiale du sujet. Cette négociation mondiale, elle a lieu effectivement en ce moment, sous l'égide de l'OCDE, et ce n'est qu'en cas d'échec de cette négociation que les Européens envisageraient une solution européenne pour la taxation du numérique. Ces menaces sont-elles donc une façon pour le secrétaire au Trésor américain de mettre en doute l'idée que ces négociations mondiales puissent aboutir un jour? Ou est-ce une façon d'arriver en guerrier à la réunion de cet après-midi avec la France et l'OCDE, ou de prévenir que les Américains ne sont pas si enclins qu'ils le disent à négocier un accord sur le numérique au niveau mondial? Ce qui est sûr en tout cas, c'est que cet accord n'est pas pour demain, ni même pour la fin de l'année. L'OCDE a publié il y a 3 mois une approche qui concilie tous les différends, mais ce qui reste à négocier est colossal. La semaine prochaine doit justement être abordé le périmètre de cette taxe, autrement dit, quelles entreprises elle concernerait.
Merci Marie Viennot. Bravant l'interdiction qui lui a été faite de quitter le territoire vénézuélien, le chef de file de l'opposition Juan Guaido est actuellement en tournée internationale après avoir rencontré hier le Premier ministre britannique Boris Johnson. L'homme censé incarner l'espoir de changement au Venezuela est attendu à Bruxelles aujourd'hui. En Italie, la démission du chef du mouvement 5 étoiles de la tête de la formation anti-système est attendue dans la journée. Luigi Di Maio devrait en revanche rester en place à son poste de ministre des Affaires étrangères. Reste que ce départ départ intervient à quelques jours seulement d'un scrutin régional clé en Émilie-Romagne, bastion de la gauche et où une possible victoire de l'extrême droite pourrait non seulement entraîner la chute du gouvernement de coalition, mais aussi provoquer des élections législatives anticipées. Enfin, en Grèce, la magistrate Ekaterini Sakellaropoulou a été élue ce matin. Il y a une vaste majorité présidente de la République. À 63 ans, elle devient ainsi la première femme de l'histoire du pays à accéder à ce poste essentiellement honorifique. Invité par Israël avec une quarantaine de dirigeants mondiaux pour commémorer jeudi le 75e anniversaire de la libération du camp nazi d'Auschwitz, Emmanuel Macron est arrivé ce matin un jour plus tôt pour ses rencontres diplomatiques au menu l'Iran, sujet évidemment de tension maximale après l'élimination par les États-Unis du général iranien Soleimani. En revanche, le chef de l'État devrait rester prudent sur le dossier israélo-palestinien, répétant la doctrine d'une solution à deux États avec Jérusalem comme capitale pour chacun et dotée d'un statut international. Plus question, autrement dit, comme il l'avait évoqué juste après son élection, de présenter un plan de paix. Quoi qu'il en soit, Emmanuel Macron a donc commencé cette journée par un tête-à-tête avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou avant de rencontrer son homologue Reuven Rivlin, puis le chef de l'opposition Benny Gantz. Les précisions depuis Jérusalem de notre correspondant Frédéric Mettezo.
Emmanuel Macron visite actuellement l'église Sainte-Anne de Jérusalem, domaine français de la vieille ville, et il y a eu un petit incident avant son arrivée. Les services de sécurité intérieure israéliens ont voulu inspecter les lieux. Refus de la sécurité française, éclat de voix et retour à la normale. Emmanuel Macron va ensuite déjeuner avec des représentants des églises chrétiennes d'Orient, puis il se rendra en fin d'après-midi à Ramallah pour rencontrer le président palestinien Mahmoud Abbas, toujours par souci d'équilibre entre Israël et la Palestine. Avant cela, le président de la République a rencontré le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, son rival aux prochaines élections Benny Gantz, et le président israélien Reuven Rivlin, devant lequel il a déploré le retour de l'ombre noire de l'antisémitisme en Europe, et cela 24 heures avant ses commémorations du 75e anniversaire de la libération d'Auschwitz.
Voilà, et j'ajoute que cet après-midi, Emmanuel Macron ira voir par ailleurs à Ramallah le chef de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Ce sera d'ailleurs le seul des principaux leaders présents en Israël cette semaine à faire un déplacement donc à Ramallah. L'occasion de s'interroger qu'attendent aujourd'hui les Palestiniens de la France et plus largement de l'Europe. Vous avez posé la question, Frédéric Mettezo, à Mahmoud Al-Aloul, le numéro 2 du Fatah, c'est-à-dire le parti du président palestinien.
Je vois la France comme un pays très important. Je lui fais confiance pour avoir un rôle très positif. Les pays européens en général peuvent avoir un rôle positif dans nos dossiers, mais la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne sont vraiment au cœur de l'Europe et peuvent vraiment peser. Donc nous parlons aux Européens et nous leur demandons de mettre au point un mécanisme international pour trouver une solution.
On ne veut pas laisser les Américains décider seuls sur ce dossier. Nous voulons d'autres parties pour cette médiation.
D'ailleurs, les Européens ne doivent pas seulement être médiateurs. Ils doivent être acteurs. Ils ont un rôle à jouer. Nous voyons qu'ils sont très attachés à la solution à deux États, alors que les États-Unis n'en parlent plus. Si la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne reconnaissaient l'État de Palestine, cela provoquerait un grand changement.
L'accalmie sur le front des grèves et notamment la reprise quasi normale du trafic ferroviaire et du métro parisien présage-t-elle d'une autre forme de tempête lors du débat parlementaire sur le projet de réforme des retraites présenté au Conseil des ministres ce vendredi? Toujours est-il qu'après 2 ans de concertation et 7 semaines de conflit, la réforme des retraites doit franchir donc une étape clé cette semaine. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ses opposants tentent toujours malgré tout de relancer une mobilisation en Berne avec encore ce matin plusieurs actions coup de poing. C'est le cas avec une nouvelle opération port mort à Marseille, mais aussi la mise à l'arrêt depuis hier de l'usine hydroélectrique de Grand-Maison dans l'Isère, la plus puissante de France. Et c'est donc au milieu de cette poudrière sociale, eh bien, que le gouvernement cherche, lui, tant bien que mal, à rassurer. Anne-Laure Jumet, bonjour.
Bonjour.
dernière profession à recevoir l'attention de l'exécutif. Les jeunes chercheurs, leurs salaires seront revalorisés. C'est ce qu'a promis hier soir la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Frédérique Vidal.
Oui, à partir de 2021, un chargé de recherche ou un maître de conférence sera recruté à hauteur de 2 SMIC par mois, soit environ 2 400 € net mensuels. C'est l'engagement pris hier soir par Frédérique Vidal. Aujourd'hui, la moyenne en début de carrière, c'est 1,3, 1,4 SMIC selon les chiffres du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche. 26 millions d'euros seront débloqués pour cette remise à niveau et au-delà, la ministre promet une revalorisation d'ensemble pour répondre à la question de l'attractivité des métiers. L'enveloppe totale sera de 92 millions d'euros. Alors pour Anne Roger, co-secrétaire générale du syndicat SNESUP, c'est un premier pas, mais il ne règle pas la question de fond, celle de l'emploi à l'université.
Ça montre surtout déjà que la ministre Frédérique Vidal ne peut plus ignorer la colère des collègues et donc elle ne peut plus faire l'autruche. Donc ça, c'est déjà un bon signe. Par contre, bon, un rapide calcul montre quand même qu'on est quand même 55 000 enseignants-chercheurs. Donc 92 millions d'euros, ça fera une revalorisation autour de 40-50 euros par mois. Ça reste insuffisant. Et puis surtout, il ne faudrait pas que ça nous fasse oublier qu'il faut une politique de revalorisation et d'emploi, parce que si on est revalorisé et qu'il n'y a pas de poste, la question de la revalorisation tombe un petit peu à plat.
Et selon le SNESUP, 110 emplois ont été gelés cette année dans les universités, les établissements utilisant ce levier pour faire des économies. Le syndicat attend donc des annonces sur cette question, notamment une programmation de l'emploi sur les années à venir.
Merci Anne-Laure Jumet. Et puis je précise que la ministre donc de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Frédérique Vidal, sera justement l'invitée sur notre antenne ce soir du journal de 22h. C'est aujourd'hui le coup d'envoi de la troisième saison de Parcoursup, la plateforme d'admission post-bac, avec parmi les nouveautés donc cette année des écoles supplémentaires comme par exemple l'ouverture de Sciences Po en province, mais aussi des changements notamment du côté des études de santé. Laura Dulieu, bonjour.
Bonjour.
Alors désormais, les études de médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie, kinésithérapie seront donc accessibles via Parcoursup et ce, via deux voies différentes en réalité, Laura, car la première année commune aux études de santé a été supprimée.
Exactement, il y a désormais deux possibilités pour les futurs bacheliers. La première, elle concerne les étudiants qui hésitent encore un peu à se lancer en médecine. C'est la licence avec option accès santé, la LAS. Le principe est simple, le bachelier s'inscrit dans une licence de son choix, physique, sciences de la vie ou même économie, mais cette licence comporte une option d'enseignement en santé. Comme n'importe quelle licence, elle dure 3 ans et l'avantage, c'est que l'étudiant pourra candidater à un cursus en santé quand il le souhaite. En première, deuxième ou troisième année, il aura droit à 2 essais, le tout selon une procédure bien particulière. Et si au contraire, le lycéen est certain de vouloir faire médecine, il peut choisir la deuxième possibilité, à savoir le parcours accès santé, appelé le PASS. Attention, il est disponible uniquement dans les universités dotées d'une fac de médecine. Dans ce parcours, il y a à l'inverse une majorité d'enseignements de santé, comme dans le PACES actuel, mais avec une mineure dans une discipline au choix. Ça peut être de la physique, des langues, de l'économie, du droit. Et l'idée, c'est de permettre à l'étudiant de pouvoir se réorienter. Oui, car dans ce cas de figure, le redoublement n'est pas possible, contrairement à l'ancien système. Et si l'étudiant n'a pas le niveau pour passer en deuxième année, mais qu'il a quand même la moyenne, eh bien, il pourra bifurquer directement en deuxième année de la licence correspondant à sa mineure. Alors en pratique, les universités sont laissées assez libres d'organiser ces nouveaux cursus. Avec la fin du numerus clausus, elles fixeront elles-mêmes le nombre d'étudiants acceptés selon les besoins du territoire. Des mesures de transition sont aussi prévues pour les étudiants admis en PACES l'année dernière, mais qui doivent redoubler cette année.
Merci Laura Dulieu. Les attaques contre la nature seront-elles un jour considérées comme un crime international? Un crime parmi les plus graves qu'il soit possible de commettre, puisqu'en portant une atteinte grave à la nature et aux écosystèmes, eh bien l'écocide commis par des multinationales ou bien des États met aujourd'hui en péril notre terre et les conditions d'existence même de populations entières. Alors récemment, Emmanuel Macron avait lui-même repris à son compte ce terme d'écocide pour parler de la destruction de la forêt amazonienne par les incendies et la déforestation. Et puis ce débat qui consiste donc à faire évoluer le droit à reconnaître l'écocide suicide est également d'actualité en France. On le verra, que ce soit au sein des enceintes législatives ou bien encore de la Convention citoyenne sur le climat. Véronique Robérod, bonjour.
Bonjour.
Précisons peut-être tout d'abord, Véronique, que ce concept même d'écocide ne date pas d'hier. Il est défendu depuis des dizaines d'années maintenant par des scientifiques et des juristes.
Oui, on commence à parler d'écocide dans les années 70. On est alors en pleine guerre du Vietnam et l'utilisation par les États-Unis de l'agent Orange, un défoliant criminel utilisé en toute conscience. Valérie Cabanès est juriste, elle est spécialiste en droit international.
C'est vraiment la guerre du Vietnam qui a popularisé le terme, puisque l'armée américaine a utilisé ce fameux agent Orange pour défolier les forêts du Vietnam, qui encore aujourd'hui ont un impact sur la santé humaine, puisque des enfants naissent encore aujourd'hui avec des malformations. Un biologiste qui était à l'origine de ce produit, c'est-à-dire que c'est lui-même qui l'avait conçu pendant les années 43-44, a dénoncé l'écocide vietnamien. Et le premier ministre suédois Olaf Palme en 72, au premier sommet de la Terre, a qualifié effectivement l'action américaine d'écocide au Vietnam. Cela étant dit, c'est une action qui s'est faite en temps de guerre. Et donc depuis les années 90, plusieurs jurys se succèdent, si je puis dire, pour continuer à maintenir la pression et à demander à ce que l'écocide soit reconnu aussi en temps de paix, ce qui est, à mon sens, vu le caractère urgent de la crise écologique et climatique, d'autant plus justifié aujourd'hui.
Alors, faire reconnaître donc le crime d'écocide en temps de paix et non plus seulement en temps de guerre auprès de la Cour pénale internationale, qu'est-ce que cela signifie concrètement, Véronique ?
Alors, ça veut dire élargir, introduire le crime d'écocide dans le traité de Rome, donc qui régit la Cour pénale internationale de La Haye, ce qui pourrait mener à la condamnation bien d'États coupables de mener des politiques, par exemple, climaticides qui ne tiennent pas compte du réchauffement climatique, comme le Brésil ou l'Australie en ce moment. Leur immobilisme pourrait être demain condamné. On pourrait aussi engager des poursuites contre des multinationales qui détruisent elles aussi la planète en toute connaissance de cause. Cette notion de crime contre l'environnement et son inscription dans le code pénal français, elle a été évoquée très récemment. C'était lors de la Convention citoyenne sur le climat. Une citoyenne a interpellé le président Macron pour qui la destruction d'ailleurs de la forêt amazonienne est un écocide.
Les atteintes à nos écosystèmes entraînent notamment la disparition massive d'espèces. La reconnaissance du crime d'écocide est un outil juridique qui permet de dissuader et poursuivre les responsables. Pouvez-vous vous engager, Monsieur le Président, à agir pour faire évoluer le droit international pour permettre la poursuite de ces crimes contre Mère Nature ?
Alors, c'est un travail, et vous avez d'ailleurs ouvert plutôt la voie internationale et de la Cour pénale, qui n'a de sens que si on le fait au niveau international. Et moi, je souhaite qu'on aille dans ce sens. Et donc, on est en train d'engager nos collègues européens pour pouvoir porter des initiatives qui vont dans cette direction. Si l'Europe arrive à articuler une voix commune, c'est mon souhait, et le faire reconnaître devant les instances internationales, là, on a un effet utile. Je suis sceptique sur l'effet utile si on ne le faisait qu'en droit français. Je suis favorable à ce qu'on le porte en droit international.
Voilà, et l'on en déduit par là, évidemment, Véronique, il n'est pas question du coup pour la France de montrer l'exemple.
Non, pourtant d'autres États le font. Récemment, les Maldives, les îles Vanuatu dans le Pacifique se sont dites prêtes à poursuivre en justice des entreprises qui sont spécialisées dans l'extraction de combustible, car leurs activités mènent à la disparition de leurs îles. En France, la proposition de loi pour inscrire l'écocide dans le code pénal français a été rejetée pour cause de définition trop floue pour le député socialiste Christophe Bouillon. La définition était pourtant très claire.
Alors c'est une définition qui parle d'un acte volontaire et d'une atteinte à la fois étendue, irréparable, irréversible aux écosystèmes. Et le gouvernement, en même temps qu'il dit qu'elle est floue, ne propose aucune correction. On voit bien que c'est une excuse pour ne pas faire. Le deuxième argument, c'est que tout se joue à l'international. On a d'ailleurs entendu le président Macron redire que l'écocide, c'est l'international. La vérité, c'est que si la France veut entraîner à l'international d'autres pays, il faut qu'elle soit exemplaire et donc il faut qu'elle l'introduise dans son propre droit.
Alors Emmanuel Macron, on l'a entendu, disait tout à l'heure qu'il fallait que ce soit l'Europe qui fasse bouger les choses. C'était aussi l'avis, Véronique, de Marie Toussaint, la députée européenne Europe Écologie Les Verts que vous avez rencontrée. Selon elle, il va falloir là aussi batailler.
Personne ne parle encore réellement de l'écocide au niveau européen. On a des situations d'écocide en Europe, évidemment. On a, par exemple, ces méga-pétroliers, ces méga-pollueurs, comme Total en France, comme Shell aux Pays-Bas. On sait, et les pétroliers savent à peu près depuis les années 70, on a des rapports américains qui le montrent, que l'exploitation des énergies fossiles nous mène vers un réchauffement climatique et peut-être même vers l'emballement climatique. Et donc on savait. On savait, et pourtant on a continué à dépenser des milliards, et on continue aujourd'hui à dépenser des milliards d'euros ou de dollars dans la recherche de nouveaux puits pétroliers ou de gaz, plutôt que d'utiliser tout cet argent-là pour l'investir dans les énergies renouvelables, dans d'autres manières de faire vivre notre énergie. Donc on est véritablement dans un cas d'atteinte à l'environnement, dans un cas d'écocide, qui doit être prévenu et donc pour cela condamné pénalement et poursuivi.
Voilà, ce que l'on comprend par là, Véronique, au fond, c'est que demain, en donnant donc des droits à la nature, eh bien, des activités légales d'entreprises qui portent atteinte à l'environnement du fait même de leur activité pourraient être condamnées.
C'est exactement ça, d'où les réticences. Écoutez la juriste, on l'a écoutée tout à l'heure, en droit international, Valérie Cabanès.
Il ne s'agit pas de renforcer le droit de l'environnement pour mieux, finalement, poursuivre des activités qui sont considérées comme illégales aujourd'hui. Il s'agit de reconnaître des activités qui sont légales aujourd'hui comme illégales au regard, effectivement, de la nécessité de préserver l'habitabilité de la Terre. Et si on ne comprend pas que l'habitabilité de la Terre est en danger, ou si on ne veut pas l'entendre, à ce moment-là, on agit en connaissance des conséquences de ces décisions ou de ces actes. Et ça, c'est un alinéa de l'article 30 du statut de Rome qui permet de reconnaître comme élément moral de crimes les plus graves l'intention de nuire. On n'arrivera jamais à l'approuver pour une multinationale, ou la connaissance. Et je pense effectivement qu'on a beaucoup de dirigeants aujourd'hui qui agissent en connaissance et qui pourraient, par un cadre régulateur, un cadre contraignant, mieux protéger nos conditions de vie.
Voilà, des États comme l'Australie, dont la politique qui ne tient absolument pas compte du réchauffement climatique et qui mène à des catastrophes comme des méga-feux pourraient être condamnés. Donner des droits à la nature permettrait aussi, bien sûr, et c'est presque le plus important, une justice préventive, dissuasive, beaucoup plus efficace.
Merci Véronique. Robert Roth, on termine avec un mot de météo. Le temps de cet après-midi sera encore très perturbé sur les Pyrénées-Orientales où la vigilance orange pluie, inondation est maintenue. Partout ailleurs, le ciel sera beaucoup plus dégagé. Quant aux températures, elles afficheront entre 5 et 15 degrés. C'est la fin de ce journal, il était réalisé par Nicolas Pommet et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.